Bonjour, je m'appelle Annie de Vivi, je suis la fondatrice du site internet agevillage.com et je m'occupe aussi des formations humanitudes en France. Et j'ai le privilège d'avoir été invitée à animer cette table ronde où on accueille trois invités qui vont parler avec nous de l'évolution des formules et des formes d'habitat collectif pour l'accompagnement de l'avancée en âge. Donc à ma droite, nous accueillons Madame Ardem qui remplace au pied levé et de manière extrêmement positive la Fédération nationale des MARPA. Madame Flouquet qui s'occupe de l'action sociale de la CNAV en Ile-de-France en particulier, et Monsieur Sarrette qui dirige l'association AREPA qui dirige des établissements des EHPAD et des logements foyers. Alors l'enjeu de cette table ronde, c'est de discuter. Alors on va prendre un temps de présentation de chacun des intervenants et de leur analyse, et on vous laissera la parole donc en fin de conférence, hein, jusqu'à 15h. L'enjeu de cette table ronde, c'est que la loi qui va arriver, qui est en négociation actuellement entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, elle interroge justement cette notion de parcours résidentiel. Elle pose le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus en situation d'opposer domicile jusqu'à l'EHPAD, enfin, d'opposer justement domicile et EHPAD, mais au contraire, de réfléchir à différentes formes de parcours résidentiel de l'un à l'autre, que ce soit sur l'adaptation des domiciles eux-mêmes, jusqu'à différentes formes d'habitat collectif. Et justement, un des enjeux de la loi aussi, c'est de revoir et de dynamiser les plans d'investissement, les plans d'aide à l'investissement, et de réfléchir aux notions de prévention, de la perte d'autonomie. Et donc, Madame Flouquet, est-ce que vous pouvez nous représenter qu'est-ce que c'est que l'action sociale des caisses de retraite, et en particulier celle de la CNAV? On va déjà essayer de nous dégrossir l'enjeu de l'action sociale.
La question est vaste. Hein. Merci de me la poser si largement. Alors l'action sociale de la CNAV, d'abord, c'est effectivement au niveau national 350 000 bénéficiaires. À rapprocher du nombre de retraités du régime général, c'est à peu près 10% hein, du nombre de bénéficiaires action sociale par rapport aux retraités. Ce sont des personnes en fragilité économique ou financière, mais qui par contre sont autonomes, puisque vous le savez tous certainement, puisque vous êtes là, c'est des personnes qui ne sont pas gérées 1 à 4, qui ne relèvent donc pas des conseils généraux. Ce sont les personnes les plus autonomes, GIR 5-6. Voilà donc le cadrage. En Ile-de-France, 1,5 million de retraités, 35 000 bénéficiaires d'action sociale, en aide individuelle. Et c'est là tout l'enjeu et toutes les réflexions de l'assurance retraite aujourd'hui. C'est s'adresser à des personnes fragilisées qui ne sont pas forcément des bénéficiaires d'aide individuelle. Et qui malgré tout, parce qu'elles sont retraitées, sont éligibles à une action qui n'est pas forcément individuelle, qui sera donc liée à des politiques collectives et peut-être plus adaptées aux besoins qui sont exprimés.
Et alors justement concernant les logements et concernant l'adaptation des logements, on ne connaît pas bien tout ce que font tout ce que fait l'action sociale de la CNAV et d'autres caisses de retraite. On voit aujourd'hui que vous avez eu l'idée de vous rapprocher ensemble les grands acteurs de la retraite, que ce soit la CNAV, le RSI et la MSA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça?
Oui, alors c'est vrai que l'habitat, c'est le lieu idéal d'adaptation et de prévention de perte d'autonomie. Puisque nous le savons, les retraités, nous en général, hein, nous souhaitons vivre le plus longtemps possible au domicile. Encore faut-il que ce logement soit bien adapté aux pertes progressives d'autonomie que nous pouvons rencontrer. Donc nous avons une politique qui tient compte de cette nécessité de prendre en compte l'habitat, avec des aides qui sont individuelles d'abord, puisque comment mieux aider la personne à vivre au domicile, et puis ensuite il y a des aides plus collectives lorsqu'on s'aperçoit que le domicile lui-même ne peut plus être la réponse suffisante. Les aides individuelles, elles sont nécessaires, elles ne sont pas forcément bien comprises par les retraités qui hésitent aujourd'hui à adapter leur logement trop tôt. On s'est rendu compte que les personnes que nous rencontrons en action sociale sont des personnes dont la moyenne d'âge est plutôt 83 ans et qu'à 83 ans, il n'est pas forcément facile de vouloir restructurer son logement parce que c'est trop tard. Alors, d'abord parce que c'est trop tard, donc c'est psychologique. Ensuite, ça coûte cher. Donc c'est deux critères d'inclusion que nous devons prendre en compte. Donc l'action sociale de la CNAV aujourd'hui, mais on sait, enfin je sais aussi qu'en interrégie nous avons tous cette réflexion là, c'est d'essayer de sensibiliser le plus tôt possible la personne à l'adaptation de son logement. Alors à la limite ça peut se faire à 40 ans, hein, vous construisez votre maison, vous pensez tout de suite à adapter le logement, mais en tout cas au moment de la retraite, au moment où la personne, souvent parce qu'elle quitte son travail, va peut-être changer de logement, c'est le moment d'y penser, de se dire comment faire pour que mon logement soit le plus adapté. Alors comment convaincre les personnes ? Notre rôle c'est de donner des outils. Alors en Île-de-France on a deux outils, on a d'une part créé en interrégime un site qui s'appelle jaménagemonlogement.com. Nous l'avons fait d'ailleurs avec la Caisse des dépôts via H Village. Et ce site, c'est un moyen très simple, non stigmatisant, de comprendre comment mieux vivre au domicile. Et on l'a fait aussi, alors en interrégime, avec la MSA et le RSI, en proposant un site, un atelier. Qui est une manière pédagogique à travers plusieurs séances de mieux comprendre quelles sont les adaptations nécessaires, là encore pour que le logement ne soit pas stigmatisant mais facile à vivre.
Alors est-ce que la MSA, vous pouvez nous expliquer aussi quelles sont vos actions, qu'est-ce que c'est que l'action sociale et en particulier sur l'Île-de-France?
Oui, alors vaste programme également. Je vais peut-être commencer par rappeler ce que c'est que la MSA, Mutualité Sociale Agricole, qui n'est donc pas une mutuelle, mais qui a un régime de protection sociale et qui est le second en France après le régime général. Donc on couvre les ressortissants agricoles, qu'ils soient non salariés agricoles, donc les exploitants, les agriculteurs, mais ça va plus loin que ça, puisque par exemple tous les salariés de secteurs tertiaires comme Groupama, le Crédit Agricole, Truffaut ou Centre Hippique, etc., sont affiliés chez nous. Voilà, pour vous donner un petit panorama. Alors donc, la MSA, c'est un régime de protection sociale. C'est ce qu'on appelle un guichet unique, puisqu'en fait, on intervient à la fois sur la santé, la retraite, les prestations familiales. Donc, on couvre absolument tout ce que fait le régime général au sein d'un seul régime. Et donc, à côté de ça, on a une action sociale qui couvre également tous les domaines, hein, logement, santé, famille, jeunes, voilà, tout ce qu'on veut, et les retraités également. Donc on a une action en direction des retraités qui est de longue date. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec ce public, hein, de retraités au niveau de l'action sociale. On a des interventions à la fois sur le plan individuel. Madame Fouquet en a parlé, donc sous forme de prestations extra-légales, d'aide pour l'adaptation du logement, pour des aides à domicile, pour des frais de santé qui restent à charge. On est très très large, et évidemment, ça s'adresse à des personnes à conditions modestes et plutôt fragiles. Alors on s'adresse aussi, comme le régime général, à des personnes qui sont, j'irais 5-6, donc les personnes qui sont les plus autonomes. Dans ce cadre-là, on a aussi, nous, un service de travailleurs sociaux qui reçoit les personnes retraitées, qui peuvent les conseiller, les orienter, les aider, soit financièrement, soit au niveau de complétude de dossier. On a aussi une action sociale qui intervient au niveau des actions collectives. Donc on mène des actions collectives avec les personnes retraitées, que ce soit dans le domaine de la prévention santé. Par exemple, on a des conférences qui s'appellent « À tous santé seniors » où on invite les personnes à mieux comprendre les différentes phases autour de la santé et ce qui va se passer quand on vieillit. Et puis, on a aussi des actions autour des aidants des personnes retraitées, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus existant, qui va être de plus en plus forcément compliqué parce qu'on a un vieillissement qui augmente, donc forcément de plus en plus de personnes qui sont confrontées à être aidants de leurs propres parents. Et on a des actions, des groupes d'action collective pour justement aider ces personnes à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la personne âgée, ce qui existe comme aide, comment faire aussi face à des réactions qu'il peut y avoir. Et on a aussi, dans ce cadre-là, on a participé à la création du PRIF, hein, Prévention Retraite Île-de-France, avec des actions de prévention santé qui sont menées sur la mémoire, sur la prévention des chutes, sur je ne sais plus quoi.
L'alimentation, l'habitat.
L'habitat, voilà. On a été à l'origine aussi au niveau de la MSA d'une action qui s'appelle PEPSEREKA, qui est un label MSA sur les ateliers mémoire. Et on a encore une autre corde à notre arc qui s'appelle la Charte des aînés, qui est un dispositif qui, là, nécessite la participation sur un territoire de tous les acteurs du territoire, collectivités locales, territoriales, institutions, et habitants eux-mêmes et personnes retraitées elles-mêmes. L'idée étant de faire un diagnostic de ce qui n'existe pas, de ce qui existe, et de pouvoir répondre aux besoins de ces personnes retraitées sur leur territoire de vie et avec elles, et de construire des projets ensemble. Enfin, ça, c'est ce qu'on fait actuellement. On a une charte qui est signée sur la Seine-et-Marne. Et l'idée étant vraiment que les personnes retraitées elles-mêmes soient actives dans leur propre construction d'actions et de projets pour répondre à leurs propres besoins. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait en matière d'action sociale.
Alors, concernant justement, donc on a vu l'action sociale individuelle et le logement. Concernant les différentes formes de logement, on va venir au parcours résidentiel et au fait qu'il n'y a pas, et qu'il existe bien évidemment depuis longtemps, mais on ne le sait pas forcément très clairement, les différentes formes d'habitat collectif. Et en particulier, on va vous interroger, je vais vous interroger sur les logements foyers, sur les établissements. Vous en gérez 40, combien ? 2 ?
42.
2, voilà, j'ai bon.
Oui.
Monsieur Sarrête, expliquez-nous ce que c'est qu'un jeune logement.
Voilà,
et déjà,
pas...
expliquez-nous ce que c'est que la REPA.
Voilà, donc je ne vais pas rebondir tout de suite sur les propos de mesdames sur notamment les ateliers qu'elles viennent d'évoquer, l'action de la prévention retraite Île-de-France, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Avant ça, effectivement, il est important de rappeler que, bon, moi je suis directeur général d'AREPA, qui est une association qui gère effectivement 42 logements foyers, mais également 27 EHPAD, donc pour personnes âgées dépendantes, en Île-de-France et en région hors Île-de-France pour les EHPAD. L'objectif initial d'AREPA, c'était d'accueillir justement dans les logements foyers, dédiés à des personnes autonomes, des gens qui avaient besoin d'un logement décent. On était il y a 50 ans, puisqu'AREPA a eu 50 ans très récemment, il y a 50 ans, les gens avaient besoin d'avoir un logement décent, avaient besoin de conserver du lien social avec le tissu local, avec le tissu territorial, avaient besoin aussi de sécurité et d'avoir une résidence, un logement collectif qui leur permette de vivre en totale osmose à l'intérieur de cette résidence, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Je parle de ça parce que, justement, ces logements foyers, ils ont évolué dans le temps. Les personnes qui sont rentrées totalement autonomes ont progressivement perdu de l'autonomie. Et puis, aujourd'hui, nous avons une moyenne d'âge de résidents qui sont en logement foyer, qui est celle que Madame exposait, de l'ordre de 83 ans à l'entrée. Et des personnes vieillissantes, en perte d'autonomie, et dont il est nécessaire que nous essayions de prévenir justement cette perte d'autonomie croissante. Et c'est là où l'intervention de la CNAV, l'intervention du RSI, l'intervention de la MSA au travers du PRIF, donc de la prévention retraite Île-de-France, pardon, nous permet d'apporter dans ces lieux de vie de collectif des ateliers mémoire, de prévention effectivement de la perte de la mémoire, des ateliers qu'on appelle du bien vieillir, qui permettent d'éduquer, parce que les personnes âgées aussi, comme les enfants, ont besoin parfois de s'éduquer sur certains domaines, comme la santé, la préservation d'une bonne dentition, par exemple, la prévention de toutes les maladies qui ont trait aux problématiques du sommeil, par exemple. Et puis, Bien entendu, nous sommes sur une population qui est autonome. Il faut aussi prévoir des activités, notamment des ateliers d'équilibre en mouvement, par exemple, de la gymnastique douce. Et tout cela, il est vrai que ça n'était pas prévu il y a 50 ans, ni par les politiques gouvernementales, ni même par les gestionnaires que nous sommes.
D'ailleurs, il y a 50 ans, vous vous appeliez foyer-logement, vous vous êtes appelé logement-foyer, et la loi vous débaptise.
Exactement.
La loi
devrait nous dénommer dorénavant résidence-autonomie. Donc vous voyez bien que la question de l'autonomie et de la perte d'autonomie, je parlais tout à l'heure des EHPAD également dont nous sommes gestionnaires, est une question cruciale pour des gestionnaires comme nous. Et pour prévenir cette perte d'autonomie, nous avons besoin en particulier des institutions de retraite telles que la CNAV, des institutions de retraite complémentaires et également qui nous appuient de temps en temps, les institutions Agir Carco, pour mener des politiques de prévention de la perte d'autonomie et puis il faut le dire, pour les financer. Mm-hmm. Parce que la problématique que nous avons en tant que gestionnaire, c'est évidemment, nous adressons qui plus est à l'AREPA comme d'autres acteurs associatifs, comme nos collègues de l'AREFO ARPAD, dont je salue les présidents qui sont présents dans la salle, nous nous adressons à une population modeste, à une population qui souvent est à l'aide sociale. Et donc nous avons des tarifications adaptées qui sont soit fixées par les conseils généraux, soit fixées par nous-mêmes, mais qui sont des tarifications raisonnables. Et donc si nous voulons mener des politiques de prévention de la perte d'autonomie, des actions, des activités qui permettent de préserver le lien social, la gymnastique douce, etc., nous avons besoin des financements, évidemment, des institutions de retraite, que ce soit la CNAV ou la MSA, le RSI ou les institutions complémentaires.
Alors justement, est-ce que Madame Fouquet, est-ce que vous pouvez nous préciser ces notions de financement? Par exemple, enfin, pour moi, il y a vraiment deux éclairages à donner sur la notion d'investissement d'un côté, mais aussi sur la notion de prévention et d'appui de toutes ces actions-là.
Oui, très bien. Alors, sur la notion de financement et d'aide à la pierre, hein, puisque effectivement, la plupart des logements foyers, avec tous les noms qu'on peut leur donner aujourd'hui, ont une durée de vie entre 30 et 50 ans aussi. Ces foyers ont besoin de rénovation. Ils ne sont plus adaptés justement à la perte d'autonomie. Et ils ont même aussi besoin de travaux restructurants classiques autour de l'ascenseur, autour de la salle de bain notamment. Donc là, la CNAV s'est effectivement fortement engagée sur cette aide-là. Elle a deux outils aujourd'hui à sa disposition. Une politique de prêt à 20 ans, sans intérêt, et qui permet de financer jusqu'à 50% des travaux nécessaires. Alors bien entendu, cette politique de prêt, elle s'appuie sur une volonté de notre conseil d'administration qui étudie chaque dossier en fonction de la lisibilité et du projet de vie de l'établissement. Une autre politique de subvention, qui aujourd'hui est une politique de subvention jusqu'à 30 000 euros et qui sert notamment à financer justement les travaux d'adaptation d'équipement à l'intérieur des logements foyers. Nous avons aussi bénéficié cette année 2014 d'une délégation de la CNSA en avance sur la loi autonomie, puisque nous avons eu un programme d'aide à l'investissement qui a permis à l'assurance retraite de faire partager par les 16 CARSAT, donc les 16 caisses assurance retraite France entière, d'une dotation de 10 millions pour mettre en place pour des subventions. Subvention qui donc là dépassait le périmètre d'action de la CNAV des 30 000 euros, qui pouvait aller beaucoup plus loin, tout en respectant bien sûr les règles du cofinancement indispensable. En Ile-de-France, nous avons financé cette année pour 1 million de travaux en aide à l'investissement CNSA, en s'appuyant malgré tout sur le caractère, sur le cofinancement avec la politique de prêt de la CNAV.
Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, monsieur Sarrette? Je suis sûre que vous êtes d'accord.
Excellente question, madame de Livy. Clairement, non. L'effort qui est consenti, qui a été consenti en 2014 par les pouvoirs publics et qui est géré par la CNAV, est certainement un effort tout à fait louable. Simplement, Madame Flouquet l'a rappelé, 10 millions d'euros à rapporter à un parc de plus de 2000 logements foyers, dont une étude qui a été parue en 2013 avait rappelé que 80% d'entre eux étaient vétustes. Et c'était le terme qui était employé dans l'étude. Clairement, on voit bien que les 10 millions d'euros de subventions ne suffiront pas. Simplement, elle a rappelé également qu'il y avait des prêts à 0% d'une durée de 20 ans. On espère, Madame Flouquet, que souvent, vous pourrez nous les faire durer jusqu'à 30 ans. Parce que, effectivement, pour rentabiliser des investissements, je vous donne juste un petit ordre de grandeur. Un logement foyer qui a été construit il y a une cinquantaine d'années et pour 80 à 100 résidents, qui a été rénové sans doute au fil de l'eau, mais qui n'est plus adapté à une population qui, par exemple, je le disais tout à l'heure, est en perte d'autonomie et a besoin d'avoir des douches qui soient à niveau et non plus des douches avec une marche de 40 ou 50 centimètres de haut. Forcément, dès lors qu'on mène des projets de rénovation de ce type-là, si on est sur un logement individuel tel que vous l'indiquiez tout à l'heure, évidemment, le coût sera modeste. Si on est sur 80 ou 100 logements, on va vite arriver dans des chiffrages à une centaine de milliers d'euros, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis, il va falloir mettre en œuvre ce que j'expliquais tout à l'heure, cette politique de prévention de la perte d'autonomie. Un exemple, généralement, en logement foyer, nous avions très peu de personnes en fauteuil roulant. Nous en avons beaucoup plus dorénavant. Donc les surfaces de vie collectives, si on souhaite qu'elles soient adaptées à un mode de vie correct j'allais dire normé, il convient que nous essayions de trouver des solutions pour les étendre. Et donc clairement, on a des enjeux extrêmement forts qui font que, c'est vrai, les 40 millions d'euros qui étaient prévus sur 3 ans au titre du plan du PAI, ce qu'on appelle le PAI, plan d'action à l'investissement pour les logements foyers, c'est notoirement insuffisant. Ceci étant, c'est une première approche qui a été réalisée en 2014. Nous espérons que 2015 et 2016 seront des années qui permettront de confirmer cette tendance, qui permettront effectivement d'allonger la durée des prêts qui nous sont octroyés. Et puis, vous parliez tout à l'heure du projet de loi, on a quand même si c'est un peu un serpent de mer, l'espérance que le projet de loi qui est en cours de navette entre l'Assemblée et le Sénat nous permettra demain de doter nos établissements logements foyers de forfaits autonomie qui auront pour objectif justement de financer également la prévention de la perte d'autonomie qui pour l'instant est essentiellement effectivement financée par les caisses de retraite.
Et puis on est dans le salon de la silver economy, donc on emploie des termes très modernes et donc on emploie le terme d'effet de levier, c'est-à-dire que le fait que les caisses apportent et soutiennent peuvent aider parfois à essayer de convaincre d'autres acteurs financiers à prendre le relais.
Oui, je conserve la parole une seconde parce que c'est vrai que c'est très important ce que vous dites. L'effet de levier, il est d'autant plus important quand nous arrivons à trouver des financements qu'on qualifie entre guillemets de sociaux, notamment des prêts locatifs sociaux qui nous permettent parfois de revoir le conventionnement. Alors je parle un peu peut-être charabia, mais le conventionnement, ça veut dire que nos logements peuvent bénéficier d'aide au logement, d'allocations personnalisées au logement, et évidemment ça diminue le reste à charge dans nos établissements pour les nouveaux résidents. Et ça, c'est important parce que c'est vrai, on a des résidents qui parfois sont entre guillemets un peu frileux pour venir dans nos établissements parce qu'ils se disent, ben j'entre, je ne sais pas quand est-ce que j'en sortirai, donc je vais avoir un niveau de loyer qui inclut évidemment un loyer lié à la résidence, mais également une redevance liée aux prestations que nous servons. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans nos logements foyers, nous servons, au-delà des politiques de prévention de la perte d'autonomie, des animations, des activités, évidemment, de façon classique, mais également de la restauration collective qui est offerte si la personne, enfin, offerte, qui est possible si la personne le souhaite à midi. Nous avons des systèmes de télésurveillance qui permettent de garantir la sécurité des résidents dans nos établissements. Et tout ça, évidemment, a un coût. Et c'est vrai que les gens ont maintenant un petit peu sont assez frileux avant d'entrer dans nos établissements parce que la problématique du reste à charge est importante. Et toute cette politique, à la fois gouvernementale, des institutions de retraite complémentaires, effectivement les financements sociaux qu'on peut obtenir, l'effet de levier au titre de ces financements, nous permettent de limiter évidemment le reste à charge des résidents.
Oui, plusieurs réflexions. D'abord, effectivement, on en a bien conscience, hein, les 10 millions cette année, la politique de prêt de la CNAV, c'est pas forcément suffisant, il y a de vrais besoins, on en a tous conscience. Par contre, il faut bien voir aujourd'hui, dans les demandes qui sont proposées, les plans de financement qui nous sont proposés par nos partenaires gestionnaires, nous sommes souvent les seuls. Hein, aujourd'hui, il n'y a que les caisses de retraite qui sont les cofinanceurs. Donc nous faisons beaucoup au regard de notre politique extra-légale. Nous ne pouvons peut-être pas faire beaucoup plus. Par contre, effectivement, ce qui est important, ce sont les autres leviers que vous avez évoqués et le levier sur la prévention. Donc effectivement, la CNAV est aussi en inter-régime en Ile-de-France via le PRIF. L'idée, c'est de faciliter l'accès aux actions de prévention. Et faciliter l'accès, c'est aussi les cofinancer. Hein. Aujourd'hui, les actions de prévention que nous mettons en place en partenariat sont des actions qu'en inter-régime, nous finançons entre 75 et 80 %. Donc c'est quand même un coût important et qui est aujourd'hui à prendre en compte.
Alors, on a parlé des logements foyers, donc des structures collectives où vous avez 80 résidents, entre 80 et 100 résidents. Et ce qu'on connaît peut-être moins bien, ce sont les petites unités de vie, c'est-à-dire les structures qui ont autour de 20 à 25 résidents. Et la Mutualité sociale agricole a été pionnière dans cette réflexion-là avec les MARPA, les maisons d'accueil rural pour personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de ces MARPA et où on en est aujourd'hui, madame ?
Alors, l'histoire, en fait, ça remonte à il y a très longtemps, donc 1987-86, il y a eu un programme qui a été conçu par la Caisse centrale des mutualités sociales agricoles. Et dans ce cadre-là, il y a eu des expérimentations qui ont eu lieu sur la mise en place de petites unités de vie pour 25 personnes maximum. Alors, l'idée de ces petites unités de vie, c'est d'exister sur les lieux de vie des personnes retraitées. Donc, l'idée, c'est qu'elles ne s'éloignent pas de leur environnement, des connaissances qu'elles ont. Donc, c'est aussi prioritairement le maintien du lien social. C'est un gros mot, le lien social, mais ça veut dire quand même beaucoup. C'est permettre à ces personnes donc, de rester dans un environnement connu. C'est leur permettre d'avoir un logement autonome. Donc, elles ont un logement autonome, un T1 ou un T2, hein, selon qu'ils sont en couple ou pas. Ils ont leur propre mobilier au sein de ce logement. Ce sont des petites unités de vie parce que ça permet beaucoup plus facilement des liens avec les autres et disons que c'est plus familial. Il y a une possibilité de restauration sur place, mais aussi de se faire à manger soi-même dans son logement. Il y a aussi des animations qui existent. Il y a une possibilité d'entrer et de sortir de son logement de manière individuelle et autonome sans passer par une entrée commune à tout le monde. Et on est aussi attentif à la question du loyer. Monsieur en parlait tout à l'heure. C'est vrai que la question de la redevance est importante pour les personnes. L'idée de ces MARPA étant d'offrir une redevance la moins élevée possible et donc également avec un tarif le moins élevé possible dans le cadre notamment de l'aide sociale ou d'autres types de tarifs mis en place par rapport aux personnes et bien sûr de leur permettre de bénéficier de l'aide au logement, à être personnalisé au logement, etc. Dans ces MARPA, en fait, ce qui est prévu aussi, c'est l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est le maintien de l'autonomie des personnes retraitées, évidemment. Hein, c'est des personnes qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre chez elles, mais qui en même temps ont suffisamment d'autonomie pour continuer à vivre de manière indépendante dans quelque chose de rassurant, avec un système de téléassistance qui existe, un personnel 24 heures sur 24 heures présent, et un système d'animation également sur place dans ces maisons d'accueil rurales pour personnes âgées. Alors aujourd'hui, sur toute la France, on a 170 établissements qui existent. Et en Ile-de-France, on en a 2, 3, 5, 6 existantes, 3 sur l'Essonne, 2 en Seine-et-Marne et 1 en Yvelines, avec comme projet 1 dans le Val-d'Oise, 1 en Seine-et-Marne et 1 à 2 projets sur les Yvelines. Alors il faut savoir aussi que ces maisons d'accueil rural, elles ne se créent pas comme ça, je dirais d'un coup de baguette magique. C'est en fait à l'issue d'un travail qui est fait sur un territoire repéré par rapport à une population retraitée, agricole, plutôt agricole, mais on ne prend pas que des agricoles dans les maisons d'accueil. Et on travaille là aussi avec les habitants eux-mêmes, avec les collectivités locales, ces maisons d'accueil étant des gestions associatives, les trois quarts du temps, ou publiques. Et donc on favorise au travers d'un diagnostic la possibilité de répondre via ces maisons d'accueil rurales à des besoins qui sont repérés sur un territoire.
Aujourd'hui, les MARPA, c'est une marque qui commence à être connue, un label MARPA, Maison d'accueil rural pour personnes âgées. Vous voyez des possibilités de développement importants. Quelles sont éventuellement pour alerter sur la question des freins aussi sur les MARPA, on sait que quand on a 25 résidents, il n'est pas forcément évident d'amortir justement l'accompagnement, au niveau d'accompagnement qu'on souhaite proposer. C'est pas forcément facile de le faire financer tout ça.
Alors, la MSA Île-de-France finance donc en partie les MARPA, puisque en tout cas, sur l'Île-de-France, on donne une subvention qui est à hauteur de 50 000 euros d'emblée par rapport à de l'investissement et au démarrage du projet. Notre caisse centrale finance aussi les MARPA à hauteur de 35 000 euros à peu près. Et puis nous, en plus, en Île-de-France, on apporte un second financement qui est au moment de l'ouverture du projet et de l'aide au démarrage, qui est d'environ 26 000, 27 000 euros pour permettre justement d'avoir un fonds de roulement, notamment par rapport aux avancées de financement en matière de salaire, par exemple, pour le responsable de la MARPA. Et puis, on peut aussi financer par la suite des aides sous forme de tout ça sous forme de subventions, je précise, ce ne sont pas des prêts. Et donc, dans un deuxième temps, on peut aussi financer sous forme de subventions des besoins dans les MARPA, par exemple pour de l'animation, pourquoi pas, des animations spécifiques, pourquoi pas des achats, je dirais, par exemple de bibliothèques, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça rentre dans notre pratique de subvention habituelle.
Concernant les projets des logements, des habitats, comment vous voyez justement l'évolution de vos métiers ou l'évolution de ces structures? On voit bien qu'il y a un gros besoin de remise à niveau, ou en tout cas d'investissement immobilier, mais il n'y a peut-être pas que ce niveau-là à travailler. On est dans le salon de la silver economy, la notion des nouvelles technologies arrive.
Oui, alors deux points dans votre question. Bon. Sur la rénovation du parc de logements foyers, je le disais, c'est vrai qu'il y a environ 80% de logements foyers qui ont été détectés comme étant vétustes par un audit qui a été réalisé en 2012-2013. On sait que nous, à l'AREPA, nous sommes un gros gestionnaire, donc forcément, on avait anticipé la rénovation de nos bâtis. Donc, à l'exception de 2 ou 3 établissements sur nos 40, on a un parc qui a été rénové et adapté. Ceci étant, il reste quelques établissements sur lesquels on a effectivement à améliorer la situation avec l'appui notamment des financements de la CNAV. Mais maintenant, l'avenir, c'est quoi? Alors, je le disais, l'avenir de l'existence, c'est-à-dire des résidences que nous gérons et que gèrent les CCAS de la même manière, par exemple les centres communaux d'action sociale, que gèrent d'autres gestionnaires du même type qu'AREPA. L'avenir passe par d'abord la rénovation du parc, l'adaptation, je le disais tout à l'heure, notamment des salles de bain, souvent c'est un des premiers points, l'adaptation des lieux de vie collectifs, l'adaptation souvent de la sécurité de ces établissements. Quand on est gestionnaire comme AREPA, qu'on travaille avec des bailleurs sociaux qui ont l'habitude de rénover leur parc de logement social, forcément, ils font de même avec les établissements que nous avons en gestion et qui sont adaptés pour les personnes âgées. À l'inverse, un établissement tout seul géré par un centre communal d'action sociale, il n'y a pas eu la maîtrise d'ouvrage pour assurer la sécurité même des résidents. Et ça, c'est un premier point à résoudre. Après, clairement, je le disais, il y a une perte d'autonomie des résidents qui nécessite que nous adaptions notre offre. Mettre en place, dont vous parliez de la silver economy, des chemins lumineux dans les locaux collectifs. Mettre en place, Madame disait, la télésurveillance. Bon, il se trouve que nous en sommes également dotés dans nos établissements, mais ce ne sont pas tous les établissements de type collectif qui sont dotés de télésurveillance. Ça, c'est essentiel. On sait qu'il y a environ un tiers des résidents qui viennent dans nos logements foyers parce qu'ils recherchent de la sécurité, qu'ils recherchent la capacité du gestionnaire à leur apporter, si nécessaire, un service à domicile, pourquoi pas un service de soins et infirmiers à domicile. Donc là, je réponds à l'autre partie de la question. Je crois que l'établissement de demain, le logement collectif notamment de demain, il aura à proximité des services d'aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, et pourquoi pas également dans le cadre du parcours résidentiel de la personne âgée, l'EHPAD. Et ça, bon, c'est un, on en parlait tout à l'heure avec vous, Annie Devivi, nous avons à l'AREPA construit un établissement sur ce modèle en milieu rural, hein, puisque c'est dans la Drôme, à Saint-Sorlin-en-Valois, qui mixe à la fois le logement foyer et l'EHPAD. Petit problème pour ce type d'établissement, ils sont très très difficiles à financer et ensuite très très difficiles à équilibrer en fonctionnement parce que, à l'instar de ce que vous disiez pour les MARPA qui généralement comprennent moins de 24 résidents, je crois, ce type de résidence, notamment en milieu rural, et pourtant il y en a besoin, est très difficile à équilibrer en fonctionnement. Parce que le niveau de dépendance des résidents en EHPAD et la politique de prévention de la perte d'autonomie nécessitent qu'on y mette des moyens, et notamment des moyens humains. Et c'est vrai que parfois, nous sommes extrêmement contraints. Donc la résidence de demain, il faudra qu'elle mutualise tous ces services, à la fois d'aide à domicile, de soins infirmiers, de services dédiés à la personne en perte d'autonomie, voire de l'EHPAD. Et grâce à cela, à mon avis, nous limiterons les coûts. On sait que en 2050, il y aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans, alors même qu'aujourd'hui, il y en a 1,6 million. Il faut que nous fassions face à ce défi et il n'y a que des solutions, notamment de mutualisation, qui le permettront.
Alors justement, la loi qui est actuellement en débat parle beaucoup de cette notion de mutualisation, de coordination sur les actions de prévention même. Concernant l'habitat, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou présenter ce que ça va être la conférence des financeurs, notamment, parce que c'est des nouveaux mots qui va falloir qu'on apprenne à connaître, peut-être.
Oui. Alors, d'abord, quand même, sur la mutualisation des services, on est effectivement aussi totalement engagé dans cette réflexion sur la mutualisation des services. On a mis en place, à titre expérimental, et l'AREPA a été un candidat spontané, ce qu'on appelle l'aide à domicile mutualisée. Qui conduit effectivement à travailler avec le gestionnaire sur la totalité des besoins des personnes avec des réponses différenciées suivant qu'il y ait besoin d'aide au domicile, donc dans l'appartement des personnes, et également le lien avec les activités communes de la résidence. C'est important parce que on s'était aussi rendu compte que les personnes qui s'installent dans ces foyers ne sont pas forcément beaucoup plus sociables et ne cherchent pas davantage à bénéficier. Elles sont sécurisées, mais par contre, elles ne cherchent pas davantage à bénéficier des services communs de la résidence. Donc il est important pour nous d'avoir une action proactive vis-à-vis de ces personnes-là, et le gestionnaire joue un rôle avec l'aide de la CNAV, puisqu'on va désigner un prestataire, enfin c'est le gestionnaire d'ailleurs qui va choisir un prestataire qui va répondre au cahier des charges identifié sur tous les besoins de la personne, et du coup on mutualise les services, donc on mutualise les coûts. Et c'est ça aussi qui est important. Voilà. Alors sur la conférence des financeurs, vous le savez, on en est encore à l'état de projet. L'idée, c'est bien de mettre autour de la table du département le conseil général, l'ARS et les caisses de retraite, en travaillant en réseau sur tous les champs, et le champ de la prévention est un champ aujourd'hui bien reconnu. Les conseils généraux étaient déjà bien identifiés autour de la dépendance. Le risque de cette identification, c'est d'oublier tous les retraités autonomes. Et donc cette nouvelle organisation doit mettre un peu plus au centre des réflexions les personnes les plus autonomes, avec les fonds correspondants, les fonds qui sont aujourd'hui bien reconnus comme étant des fonds que doivent gérer les caisses de retraite.
Alors, avant de vous passer la parole, je voulais juste qu'on refasse qu'on échange sur la notion d'isolement social et de lien social. J'ai participé cette semaine à une émission sur France 5 qui s'appelle Le Monde en Face, qui traitait de ce que nous allions faire de nos parents et qui montrait quatre situations de personnes, de familles qui accompagnaient un proche. Et ce qui m'a frappé dans les questions qui m'ont été posées, c'est le fait que petit à petit, les personnes se rendent compte que la notion de vie collective, de lieu de vie collectif, n'est pas si insensée que cela. Au contraire, notamment quand on voit que le domicile n'est pas forcément un lieu où on peut rester en lien, où c'est pas forcément facile, et où parfois le lieu de vie n'arrive plus du tout à être adapté. Et donc, ce que j'aimerais bien vous entendre dire chacun, c'est quelles sont vos réflexions ou vos actions que vous pouvez mener et que vous menez déjà sur cette notion-là. Je ne sais plus si vous êtes membre de Mona Lisa, mais j'en ai l'impression. Oui, c'est ça, Mona Lisa. Alors ça, c'est un nouveau nom que je vous demande tous de... Mona Lisa, vous connaissez Mona Lisa. Le joli sourire de Mona Lisa. Mais là, ça s'appelle la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est une mobilisation qui a presque un an, qui est portée par les pouvoirs publics, qui milite pour que justement tous les acteurs, comme ceux qui sont autour de la table, se rassemblent, pour essayer de créer des équipes citoyennes qui vont venir aider en appui les aidants familiaux pour que le maintien à domicile ou l'accompagnement des personnes et pour lutter contre leur isolement, y compris dans des lieux collectifs, puissent s'appuyer sur des actions et des équipes labellisées ou en tout cas reconnues. Voilà, donc la notion de lien social, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces sujets-là ?
Oui, alors c'est effectivement quelque chose sur lequel on est assez attentif dans nos actions. Tout à l'heure, je parlais de la charte des aînés, qui est donc un dispositif territorial. Et comme je le disais, la vocation première, c'est vraiment le maintien du lien social pour les personnes retraitées sur un territoire de vie. Et donc, ça peut passer justement par la mise en place d'actions de ce type-là, visite des personnes retraitées qui ne peuvent pas se déplacer à domicile, portage des repas à domicile, tout ça, c'est une manière de conserver et de maintenir du lien social. Je dirais aussi qu'au niveau de la MSA Île-de-France, on peut intervenir aussi via des subventions auprès de structures ou d'équipements ou d'associations qui travaillent dans ce sens-là. Je pense à des fédérations d'aide à domicile qui développent par exemple des concepts d'animation à domicile au niveau des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, avec des solutions d'animation sous forme de jeu par exemple. Donc c'est vrai qu'on a subventionné dans ce cadre-là l'UNA sur la Seine-et-Marne. On travaille aussi sur une réflexion avec d'autres structures et d'autres équipements qui visent à permettre d'avoir des visites au domicile des personnes retraitées, et également de mener une action de voisinage et de citoyenneté sur un territoire de vie, notamment en direction des personnes retraitées. Donc voilà. Après, je pense que, encore une fois, les actions, elles se construisent aussi avec les personnes elles-mêmes. C'est un peu notre manière de voir les choses.
Ah. Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Et des projets comme Luna, on a forcément adhéré à ce genre de dispositif. Peut-être une réflexion sur le fait que aujourd'hui on peut pas opposer les logements intermédiaires et le domicile diffus. Hein. Il y a un continuum qui est une logique. C'est vraiment pas contradictoire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la personne ne peut plus vivre chez elle, cet accompagnement-là est indispensable, et que le lien social qu'il faut préserver se fera peut-être plus facilement, enfin devrait se faire plus facilement dans les logements intermédiaires. Au-delà de la conviction des des résidents, c'est peut-être aujourd'hui le sujet le plus difficile, puisqu'on a bien mis, on voit bien qu'on met en place des actions via le PRIF, via d'autres aides aux animations. Au-delà de ça, je crois que ce qui est important aussi, c'est de favoriser le lien entre la ville et le logement foyer. C'est pour ça qu'on tient tous dans nos projets de vie, c'est un des critères de financement de la CNAV d'ailleurs, s'assurer qu'il y a bien un lien avec la ville, que les personnes de l'extérieur viennent dans le foyer logement pour y manger, pour y rencontrer les autres, et que du coup ça permet aux autres personnes de sortir. On n'est pas en train de favoriser un ghetto de personnes autonomes, mais un peu différentes. Et ça c'est vraiment important dans la logique, dans la pédagogie vis-à-vis de ces foyers.
Oui, je souscris vraiment tout à fait à ce que vient de dire Madame Flouquet. Nos résidences à la REPA en particulier s'inscrivent dans un tissu local, dans un tissu territorial qui est donné et qui nécessite qu'évidemment nos directrices ou nos directeurs de résidence soient en relation constante avec les associations de personnes âgées locales, avec la mairie, avec les services du conseil généraux, avec ce qu'on appelle le CLIC, et avec tous les acteurs qui concourent à la politique de prévention de la perte d'autonomie et au maintien du lien social. Un des points, tout à l'heure je disais, nous offrons dans toutes nos résidences une restauration collective à midi. Il est bien évident que, évidemment, ils payent, mais les résidents logements sociaux qui sont à proximité de notre résidence ou toute autre personne âgée qui est dans la commune a la capacité à venir déjeuner et justement recréer à l'intérieur même de nos résidences du lien social. Toutes les personnes, Madame Flouquet le sait, quand on a des ateliers qu'on appelle du bien vieillir, des ateliers mémoire, etc., bien entendu, nos directrices et directeurs de résidence font de la pub, de la promotion de ces dispositifs à l'extérieur pour pouvoir attirer des personnes âgées de la commune, par exemple. Ça, c'est extrêmement important et c'est vrai qu'on ne peut pas, il ne faut pas opposer, je suis d'accord avec vous, le lieu de vie, le maintien à domicile et le lieu de vie collectif. D'ailleurs, le lieu de vie collectif, je ne vous cacherai rien, c'est un lieu de vie également individuel. Le logement de la personne âgée dans une résidence pour personnes âgées, qu'elle soit d'AREPA ou d'un autre gestionnaire, c'est un lieu de vie individuel dans lequel la personne a toute liberté pour faire dans son logement ce qu'elle souhaite. Bien entendu, elle est dans un établissement pour personnes âgées, donc il y a un certain nombre de règles, un règlement intérieur de la résidence, mais quand elle est dans son logement, elle fait ce qu'elle veut. Et elle a la possibilité de faire sa cuisine, et elle a la possibilité d'accueillir sa famille, et souvent on y rajoute d'ailleurs au moins une chambre d'hôte dans chaque résidence pour pouvoir permettre d'accueillir la famille le week-end si elle le souhaite.
Et on voit bien qu'il y a un boom des résidences-services dans ce sens, parce qu'on voit bien que la demande de logement collectif ou de petites unités de vie, moi j'ai visité des béguinages, c'est un des autres termes dans le Nord, plutôt dans le Nord de la France, mais voilà, la notion de parcours résidentiel évolue, les différents types de logements, que ce soit domicile ou collectif, selon la taille, évoluent. On espère qu'on vous a convaincu de ça. C'était l'enjeu de cette conférence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame.
Bonjour, Hélène Dubreuil. Je travaille pour une association. J'aurais deux questions à poser en fonction de ce que vous avez dit. La première, c'est que je suis un peu étonnée de ne pas entendre parler des personnes âgées handicapées. Mm-hmm. Et de savoir, est-ce qu'il y a un accueil pour ces personnes dans les logements? Et puis la deuxième, c'était de savoir si, en fonction de la création de ces nouveaux logements résidence-service, on pouvait pas développer ou attacher ces logements à des EHPAD avec une plateforme télémédecine, comme on a pu écouter tout à l'heure, qui faciliterait en même temps et rassurerait la plupart des habitants pour de la téléconsultation, tant les habitants des logements, tant ceux du quartier. Voilà.
Alors, sur la première partie de la question, évidemment, je le disais tout à l'heure, dans nos logements foyers, les adaptations, les rénovations qui ont été réalisées ces dernières années avaient aussi bien entendu pour objectif de respecter la réglementation qui consiste à les adapter aux normes PMR. Donc bien entendu, nous avons, sous réserve que la personne soit suffisamment autonome par ailleurs, nous avons la capacité à accueillir bien entendu des personnes à mobilité réduite ou avec des handicaps. Autre type de handicap, et je parlais tout à l'heure de solutions mutualisées, je réponds à une partie, en partie à votre seconde partie de question. C'est vrai que avoir un établissement dans lequel on a à la fois un logement foyer et un EHPAD, c'est à mon avis l'avenir. Avoir un établissement où on peut avoir un SIAD et un EHPAD accolés, et nous en avons un à Choisy-le-Roi, c'est aussi sans doute des solutions d'avenir, notamment peut-être aussi pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'EHPAD hors les murs, qui serait une solution de maintien de la personne âgée à son domicile en ayant des services qui lui permettent d'être comme dans un EHPAD. Et ça, bon, alors évidemment, ce sont des solutions qui sont très coûteuses, qu'il faut investiguer avec les agences régionales de santé, avec les conseils généraux, mais néanmoins, ça fait partie aussi des solutions innovantes. Autre sujet pour les personnes handicapées, et là, nous sommes plutôt, on va dire, dans le verso dépendance des activités que nous portons à la REPA, un EHPAD avec, à ses côtés, avec l'établissement, des unités handicapés vieillissants. Alors ça, c'est aussi un établissement dont nous sommes dotés à la REPA, mais nous n'en avons qu'un. Il a été créé en 1995, donc il y a près de 20 ans. Nous aimerions le dupliquer. Les conseils généraux nous sollicitent fortement là-dessus. Après, le problème, c'est les financements. La politique de simplification administrative qui est prônée par le gouvernement actuel nous sollicite sur justement ces sujets. Comment essayer de trouver des financements convergents qui permettent de doter certains EHPAD d'unités d'handicap vieillissant. Donc sachez que nous avons cette offre-là, mais sur un seul de nos 27 EHPAD, nous aimerions évidemment la dupliquer.
Oui, alors je peux répondre pour les MARPA. Donc les MARPA, l'objectif des MARPA, c'est d'accueillir des personnes autonomes. C'est du plein pied, cela dit, mais autonome, ça ne veut pas dire non handicapé. C'est-à-dire qu'on a dans certaines MARPA des personnes qui sont handicapées, mais malgré tout, qui sont quand même autonomes. Donc ces personnes-là peuvent être accueillies. Après, c'est vrai qu'au niveau national, il y a une réflexion qui est en cours au niveau des MSA, justement par rapport à la question que vous posez, et justement pour réfléchir à des petites unités de vie, parce qu'on est plutôt sur un concept de petites unités de vie au niveau de la MSA, en pensant que c'est beaucoup plus simple et je dirais plus facile pour les personnes retraitées d'entrer dans ce type de structure. Et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir justement pour des petites unités de vie, pour des personnes qui sont handicapées, qui vieillissent, avec sur certaines, je crois qu'il y a certaines MARPA qui ont commencé à concevoir un concept qui consiste à adosser à une MARPA une petite unité de vie pour des personnes handicapées vieillissantes. Parce que en fait, on est aussi dans le parcours, on parlait du parcours de logement. C'est aussi la notion de passer d'une MARPA à une petite unité de vie adossée, proche, pour ne pas non plus être dans une rupture par rapport aux personnes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas en dur et de manière définitive ce type de structure.
Plus de questions ?
Une question.
Oui, une question, j'espère qu'elle n'est pas hors sujet, vous me le direz. Je m'adresse à mesdames. Qui travaille pour les caisses de retraite. Aujourd'hui, pour moi, il y a une méconnaissance en fait des personnes âgées, de l'offre qui existe pour l'adaptation du logement. Et inversement, pour les industriels, je suis industrielle, de faire connaître les solutions qui existent. Est-ce que vous réfléchissez à des actions, des outils d'information pour faire le lien justement entre l'offre et la demande qui est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque effectivement cette communication, cette information.
Oui, c'est vrai, vous posez une question fondamentale, la question de l'information, de la communication sur toute notre politique en général et sur l'habitat en particulier. Alors, je crois que les réponses les propositions que j'ai faites en début d'intervention sur notre site j'aménage mon logement, c'est déjà une réponse fondamentale, puisque ce site bénéficie d'une audience forte via H-Village, mais pas que, hein, c'est un accès direct, avec chaque fois des questions et des réponses, des orientations possibles vers les solutions techniques. Il y a ça, nos ateliers, puisqu'ils s'appuient sur une construction par les pactes, c'est aussi un moyen de connaître les solutions techniques, et c'est un point important. Et puis, ben, nous sommes dans la Silver Eco, hein, nous sommes partenaires, et nous avons d'ailleurs contribué. Hier, nous avons remis un prix dans ce cadre-là, ce qui montre bien que nous soutenons tous les efforts qui sont faits dans le rapprochement avec les solutions techniques via la Silver Valley.
Je compléterai en disant que par rapport au site dont parle Madame Fouquet, il y a donc des indications par rapport à ce que font les caisses de retraite, justement, en matière... justement, sur ce site, il y a des indications sur ce que font les caisses de retraite en matière d'aide en direct vis-à-vis des retraités. Pour parler de la MSA, comme je le disais tout à l'heure, on a des aides pour financer de l'adaptation du logement, que ce soit de l'adaptation du logement à un niveau, primaire, par exemple une barre de douche, par exemple un plan incliné, des choses un peu simples, mais que ce soit aussi de l'adaptation du logement de manière plus importante, avec un devis ou une étude qui a pu être faite par un spécialiste. On parlait du pacte Pactarim, Codalpact, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui peut faire justement une étude des besoins de la personne, et nous, on peut financer en partie, évidemment, pas totalement, les travaux et les besoins des personnes dans ce cadre-là. Donc oui, il y a des choses qui existent en matière d'action sociale, que ce soit au niveau de notre caisse, mais que ce soit aussi au niveau de la CNAV, hein, et du RSI. Le RSI n'est pas là, mais le RSI, Régime Social des Indépendants, le fait aussi.
Et je vous invite vraiment à aller, puisqu'on est dans ce salon, c'est l'occasion, sur le stand du PRIF, qui montre justement le rapprochement entre l'offre et les solutions techniques.
Eh bien, merci beaucoup. Nous allons vous céder la parole à la prochaine conférence. Merci de votre écoute.